Bonjour, je suis Christine Écureux, inspectrice d'académie et inspectrice pédagogique régionale en histoire-géographie de l'Académie d'Orléans-Tours. Et je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette quatrième web radio proposée par l'équipe TIS académique d'histoire-géographie et enregistrée en direct depuis le campus de la CCI de Blois. Notre émission s'intitule cette année « France-Allemagne, mémoire des deux guerres mondiales ». Autour de cette table sont présents deux élèves du collège Célestin Freinet de Sainte-Maure-de-Touraine dans l'Indre-et-Loire, Chloé L'Écureuil et Célestin Pignon, et deux de leurs camarades du lycée Émile Zola de Châteaudun en Eure-et-Loire, Wissal Sioux et Eva Conforto, ainsi que notre invitée Élise Julien qui répondra à leurs questions. Élise Julien, vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Lille et chercheuse au laboratoire d'histoire IRIS. Vous avez publié en 1999 les rapports franco-allemands à Berlin, 1945-1961. Puis, en 2010, vous avez publié votre thèse de doctorat, Paris-Berlin, la mémoire de la guerre, 1914-1933. Vous êtes aussi membre du conseil scientifique de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, sous la présidence d'Antoine Prot. Avant de commencer l'émission, Célestin, du collège de Sainte-Maure-de-Touraine, souhaite vous poser une première question.
Bonjour Élise Julien, dans notre collège nous sommes demandés pourquoi vous avez choisi ce thème d'étude.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour cette première question, mais c'est pas très facile de répondre, alors je vais essayer de faire simple pour clarifier les choses. Il faut savoir qu'il y a des parcours de recherche plus ou moins directs, plus ou moins longs, plus ou moins sinueux, et pour ma part je ne suis pas allée directement vers la Première Guerre mondiale, même si c'est mon thème de recherche actuel. Au départ je m'intéressais plutôt à l'Allemagne, en général, et puis à Berlin en particulier, ce qui explique que j'ai fait une première recherche sur la fin de la Seconde Guerre mondiale et les rapports franco-allemands qui se sont instaurés à Berlin après 1945 dans le cadre de ce qui était une occupation. Et ça m'a permis de travailler sur les représentations réciproques des Français et des Allemands à partir du cas berlinois. Mais il faut dire aussi que j'étais parisienne et que cette première recherche, pour moi, c'était l'occasion de découvrir une autre capitale, Berlin, et ça m'a conduite à m'interroger sur ce qui pouvait faire justement la spécificité des capitales, donc de ces villes particulières que sont les capitales, notamment du point de vue historique, et même quand elles sont aussi différentes que le sont Paris et Berlin. Et pour étudier cette spécificité, je me suis penchée sur une démarche de comparaison des deux villes. Et c'est à ce moment-là que j'ai changé de guerre. Donc je suis passée de la Deuxième Guerre mondiale à la Première Guerre mondiale, parce que ça me permettait de voir comment, dans les deux cas, les populations de ces villes ont réorganisé leur vie, ont essayé et réussi ou pas de passer de la guerre à la paix, après la rupture qu'avait été la Première Guerre mondiale dans les deux cas. Donc j'ai travaillé sur la question de la guerre et aussi de la mémoire de la guerre. Et c'est comme ça que j'ai rédigé une thèse sur Paris et Berlin après la Première Guerre mondiale.
Pour débuter cette émission, nous allons nous intéresser à la question de la guerre vécue en insistant davantage sur la Première Guerre mondiale. Pour cela, nous aborderons la préparation des esprits, mais également la guerre vécue par les soldats et à la violence qu'ils ont subie. Et pour commencer, nous allons écouter un extrait du film Joyeux Noël, réalisé par Christian Caron en 2005. Cet extrait montre le rôle de l'école dans la préparation des esprits à la guerre, et surtout ceux des jeunes écoliers en France, en Angleterre et en Allemagne.
Enfant, regarde sur ces cartes ce point noir qu'il faut effacer. De tes petits doigts, tu l'écartes. En rouge, il vaut mieux le tracer. Plus tard, quoi que le sort te fasse, promets-moi bien d'aller là-bas chercher les enfants de l'Alsace qui nous tendent leurs petits bras. Puisse, en notre chère France, les rameaux verts de l'espérance fleurir par toi, mon cher enfant. Grandis, grandis. La France attend.
To rid the map of every trace of Germany and of the Hun, we must exterminate that race. We must not leave a single one. Heed not their children's cries. Their slayer now, the woman too, or else someday again they'll rise, which if they're dead, they cannot do.
Ein Feind ist unserer und einer allein. Schon meißelt er Deutschlands Grabestein. Voller Hass ist sein Busen, voller Neid und voll Pein. Ein Feind ist unserer und einer allein. Nun hebt der Frevler die Meuchelnde an. Sein Name, du kennst ihn, ist England.
À partir de cet extrait, Madame Julien, on peut se demander si la guerre n'était pas présente dans les esprits avant même son déclenchement. Qu'en pensez-vous ?
Alors, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a effectivement cette idée qu'on prépare les esprits à la guerre. Sans doute que pour les besoins du film, elle est quand même poussée à l'extrême, cette idée. Alors, les cartes de France avec l'Alsace-Lorraine en noir, les chants, les poèmes qu'on vient d'entendre, qui sont des poèmes patriotiques, ils ont bien existé. Mais dans les années juste avant la guerre, le revanchisme, il est quand même en baisse. C'est-à-dire que, sans le dire trop fort, la majorité de la population, en France par exemple, la majorité n'est pas prête à faire la guerre pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. De même, les Allemands et les Britanniques, ils peuvent se sentir en danger, ils peuvent se sentir sur leur garde, mais ils ne pensent pas à se lancer dans une guerre générale. Ce n'était pas forcément l'état d'esprit. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ces poèmes, on voit quand même que chaque pays a des raisons de se sentir dans son bon droit, une fois que la guerre est là. Donc, par exemple, les Français, à cause de l'Alsace-Lorraine. La Grande-Bretagne, à cause de la concurrence allemande, notamment la concurrence industrielle. Et puis l'Allemagne, à cause de la concurrence britannique, notamment maritime. Dans le film, sur l'extrait qu'on vient d'entendre, on voit justement la mer, on voit un bateau sur la mer. Et donc, ça montre cette concurrence sur la mer. Et on voit aussi que le principal ennemi de l'Allemagne, à l'époque, c'est l'Angleterre. C'est pas la France. Et nous, on n'y pense pas forcément spontanément. Et puis tous ces pays, ils ont des rivalités d'ordre colonial. Ça a donné lieu à des crises diplomatiques déjà par le passé. Donc il y a quand même tout ce contexte qui compte, mais pas forcément la volonté de faire la guerre directement. Et puis une dernière chose qui est intéressante, au-delà de ces rivalités, ce sont les ressemblances. On voit ces trois enfants. On avait l'image à l'instant, là, qui se ressemblent énormément. Les salles de classe se ressemblent. Ce sont des petits garçons qui sont assez similaires, finalement, d'un pays à l'autre. Et on peut se dire que les populations européennes, elles se ressemblent beaucoup. Elles ont eu une éducation assez similaire.
Vos travaux, notamment le chapitre 1 de votre thèse, évoquent cette préparation à la guerre des esprits. Est-ce que l'on peut dire la même chose pour la Deuxième Guerre mondiale ?
Alors d'abord, je suis très impressionnée que vous ayez lu des extraits de thèse. Alors ce que j'évoque plus précisément dans le livre, c'est en réalité moins la préparation des esprits à la guerre que le fait que la mémoire de la guerre, elle est déterminée par ce qui se passe avant la guerre. Alors dit comme ça, ça peut paraître un petit peu curieux, c'est-à-dire que pour le dire vite, la mémoire de l'événement, elle commence avant l'événement. Ce que je veux dire par là, c'est que les représentations qu'on a avant que l'événement commence, eh bien, elles sont déterminantes pour la manière dont on va se souvenir après coup de l'événement. Par exemple, pour les Français, donc les Français, ils vivent dans une république à l'époque. Pour eux, l'Allemagne, c'est un empire autoritaire qui est dangereux, qui menace la paix, qui menace la démocratie. Alors que la France défend les intérêts de l'humanité depuis la Révolution française, etc. Et c'est l'inverse pour les Allemands. Pour les Allemands, ils vivent dans un empire, mais ils conçoivent cet empire comme un refuge de la paix, et ils ont l'impression qu'ils sont encerclés par un monde d'ennemis qui veut les empêcher de s'étendre, de se développer en Europe et dans les colonies. Donc ça veut dire que chacun veut se défendre, et on retrouve un petit peu l'idée qu'on avait dans l'extrait du film « Joyeux Noël » tout à l'heure. Alors votre question, elle porte sur la Deuxième Guerre mondiale. Là, le contexte, il est complètement différent avant la Deuxième Guerre mondiale, justement parce qu'il y a eu une Première Guerre mondiale. Et ça, ça change vraiment les choses. C'est vrai qu'en Allemagne, il peut y avoir l'idée d'une certaine revanche, puisque l'Allemagne a perdu la guerre. Et cette idée de revanche, elle est présente dans la politique d'Hitler et des nazis. C'est l'idée que la Seconde Guerre mondiale, finalement, c'est la suite du même combat, et donc il faut terminer ce combat qu'on avait commencé en 1914, mais cette fois, il faut le terminer pour le gagner. Mais pour la population, le fait qu'on a connu la Première Guerre mondiale, ça joue surtout dans le sens d'un pacifisme qui est très répandu, parce qu'on ne veut surtout pas revivre les horreurs de la guerre qu'on a déjà connu. Il faut s'imaginer qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, la première, elle s'est finie à peu près 20 ans avant. C'est comme si nous, on avait une dernière guerre mondiale dans les années 90. Donc c'est quelque chose qui est très présent, et du coup, ça explique que les gens, ils sont inquiets. Ils sont beaucoup plus inquiets en 1938-39 qu'en 1914, parce qu'en 1914, ils ne savaient pas tellement ce qui les attendait. Alors que là, ils savent davantage, et ils sont surtout résignés. Ils ont vu la situation internationale se dégrader, et ils ne veulent pas revenir à ce qu'ils ont vécu pendant la Première Guerre mondiale.
Le deuxième extrait que nous allons entendre maintenant est une compilation des lettres écrites par Maurice Siklucki, un poilu originaire de Sainte-Maure-de-Touraine. Cet extrait va nous permettre d'aborder la question de la guerre vécue et notamment la Première Guerre mondiale par les soldats.
Cette correspondance donnée aux archives départementales d'Indre-et-Loire en 1993 par sa veuve Marcelle Siklucki est constituée de 106 lettres ou cartes imprimées. Maurice Siklucki écrit à son parent et tuteur, Eugène Chauvin, qu'il appelle mon oncle ou mon cher tonton, domicilié le plus souvent en Grande Rue à Richelieu, Indre-et-Loire. 6 août 1914, Châtellerault.
Mon cher tonton, je prends la plume pour t'écrire en t'écrivant que je suis maintenant sous l'habit militaire et j'ai la fine allure. La mobilisation a été pour nous assez peu pénible. Le moral des troupes est merveilleux. Le 32 est parti hier matin en chantant avec des fleurs. L'opinion est très excitée contre l'Allemagne. On est persuadé que la victoire est à nous.
29 octobre 1915.
Mon cher tonton, rien de bien nouveau depuis ma dernière lettre. Il a beaucoup plu et fait froid. Pourtant, on nous a fait travailler sous la pluie, dans la boue. Je t'assure que cela ne s'annonce pas drôle un hiver de tranchée. Puis, les permissions semblent interrompues. Jusqu'à quand ? Et dire que l'officier payeur de notre régiment, qui ne voit jamais le front de plus près que 5 km, est déjà allé 3 fois chez lui. Peut-être irai-je à Richelieu vers le 8 novembre, peut-être. Bon baiser à mon grand-oncle. Je vous embrasse tous les deux, de tout mon cœur bien affectueusement, votre pauvre neveu cafardeux, Monsieur Siklucki.
16 octobre 1916. Lettre adressée par Monsieur Mignot, un camarade de Maurice Siklucki.
Monsieur Chauvin, comme vous devez sans doute le savoir, votre neveu, Monsieur Siklucki, étant à la compagnie, il m'avait prié de vous donner de ses nouvelles si toutefois il lui arrivait un accident étant en ligne. Je suis allé aujourd'hui à l'ambulance où se trouve tant que je puis nous renseigner, car les blessures étant couvertes, on ne peut bien s'en rendre compte. Il a le bras gauche cassé, la main gauche traversée, il a aussi la bouche abîmée sur le côté droit et la face coupée. La lèvre supérieure ne paraît pas trop être malade, mais la lèvre inférieure doit être en partie coupée sur le côté droit. Une partie des dents sur le devant lui manque. Il doit être évacué probablement ce soir ou demain à l'intérieur. Recevez, Monsieur Chauvin, mes meilleures salutations.
Source, Archives départementales d'Indre-et-Loire, 1R790.
Est-ce que les extraits de lettres que nous venons d'entendre vous paraissent révélateurs de ce que pensent et vivent les soldats pendant la Première Guerre mondiale ?
Oui, c'est sans doute révélateur, mais c'est toujours très difficile de généraliser ce que pensent, ce que vivent les soldats pendant la guerre, puisqu'ils étaient des millions. Et probablement qu'ils n'ont pas tous vécu la même chose, ils n'ont pas tous non plus les mêmes interprétations, ils n'avaient pas tous les mêmes convictions, ils n'ont pas tous les mêmes réactions, etc. Donc c'est très difficile de généraliser, mais ce qu'on voit très très bien ici, c'est une évolution qui est très nette, à un an d'intervalle hein, à chaque fois, et surtout très très radicale, puisque vous avez entendu en 1914, c'est les premiers temps de la mobilisation, il y a une espèce d'excitation, hein. Et on a d'autres témoignages de cette excitation, donc en ce sens, c'est révélateur. Et puis, on entend aussi le fait que la guerre, elle est largement fantasmée. Hein, les uniformes sont beaux, les soldats sont convaincus qu'ils vont remporter la victoire rapidement, mais ils n'ont pas encore vu la guerre, en fait. Le deuxième extrait, en 1915, donc c'est un an plus tard, cette fois, ils ont vu la guerre. Et là, ils ont vu aussi le froid, la pluie, la boue, etc. Alors, en 1914, le soldat, il parle du moral merveilleux, et puis là, il parle du cafard. Donc, on voit bien que les choses ont quand même se sont largement transformées. Et puis, on sent aussi qu'il y a un certain ressentiment, c'est-à-dire qu'il dit les permissions sont suspendues, on ne sait pas pour combien de temps, mais l'officier, lui, il a le droit à ces permissions. Hein. Donc, on sent que le climat a quand même beaucoup changé. Et puis, encore un an plus tard, là, on voit que la guerre, elle a fait vraiment des ravages. Le soldat, il est grièvement blessé. Alors, on ne sait pas trop. Hein, il est blessé au bras, il est blessé au visage, il est évacué. Et il y a eu des centaines de milliers de morts et de blessés avant lui, déjà. Hein, donc, il est aussi représentatif, en ce sens, de cette évolution de la guerre.
En France, on a beaucoup de témoignages de poilus qui ont connu un succès d'édition, comme Paroles de poilus, vendu à plus d'un million d'exemplaires. Est-ce que ce phénomène d'édition est similaire en Allemagne ?
Alors, on a effectivement beaucoup de témoignages de poilus en France. On a aussi beaucoup de publications qui ont connu des succès, vous avez raison. En Allemagne, il y a eu également beaucoup de témoignages pendant la guerre. Alors, des lettres, des carnets, donc ça, c'est assez similaire à ce qui s'est passé en France. Peut-être un petit peu moins de témoignages juste après la guerre. Donc ça, ça concerne les carnets écrits après la guerre ou simplement les carnets recopiés après coup. Parce que c'était la défaite, et que les soldats, ils étaient peut-être moins encouragés à revenir sur leurs expériences qu'ils ne l'ont été en France. Mais la grande différence entre la France et l'Allemagne, c'est l'époque actuelle. Donc il y a eu des témoignages des deux côtés, mais aujourd'hui, l'intérêt il est beaucoup plus fort en France, depuis au moins les années 1990, pour ce genre de documents, que ce n'est le cas en Allemagne. Alors il existe quelques textes connus en Allemagne, des textes par exemple de quelqu'un qui s'appelle Ernst Jünger, qui a écrit un roman très connu, ou quelqu'un comme Erich Maria Remarque, qui a écrit aussi un autre roman qui s'appelle « À l'Ouest, rien de nouveau », dont vous avez peut-être entendu parler. Donc des textes qui sont utilisés dans des sens différents, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est plutôt nationaliste, etc., et l'autre qui est plutôt pacifiste. Donc ça, ce sont des textes connus qui existent, mais dans l'ensemble, l'intérêt général qu'on porte à ces documents en France, eh bien, on n'a pas le même en Allemagne. On n'a pas toute cette demande sociale de témoignages, de gens qui ont envie de lire ce qui s'est passé, etc.
Est-ce que les soldats allemands avaient une correspondance libre avec leur famille ? Pourquoi sinon ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que, oui, les soldats allemands, ils avaient une énorme correspondance avec leur famille, comme en France. La lettre, c'était déjà le principal moyen de communication à distance. On n'avait pas de téléphone, on n'avait pas toutes ces choses-là, ou alors très peu. Donc c'était déjà un moyen de communication important. Et au moment du déclenchement de la guerre, là, le nombre de lettres échangées tous les jours, il explose complètement. En revanche, je ne sais pas s'il faut parler de correspondance libre. Là, je serais un petit peu plus mesurée parce que dès le début de la guerre, il y a eu l'instauration de la censure. Et ça, c'est le cas en Allemagne, mais c'était aussi le cas en France. Il y avait ce qu'on appelait un contrôle postal. C'est-à-dire que concrètement, les courriers, ils étaient soumis à un contrôle par sondage. On ne pouvait pas lire tous ces millions de lettres qui transitaient chaque jour. Mais par contre, on en prélevait quelques-unes pour vérifier le contenu, et notamment vérifier qu'elle contenait rien de compromettant, pas d'informations stratégiques qui auraient pu arriver dans les mains de l'ennemi. Donc il y avait ce contrôle, ce prélèvement. Et c'est ça aussi qui permettait de rédiger des rapports sur le moral des troupes. Donc une correspondance, oui, ça c'est sûr, une correspondance libre, peut-être pas complètement.
Au début de votre thèse, vous écrivez que les écrits et les objets de la Première Guerre mondiale sont conservés pendant et après la guerre. Pourquoi les civils et les soldats conservent-ils autant d'objets ? Est-ce pour se souvenir ou bien pour transmettre une expérience ?
Alors, il faut se dire qu'au début de la guerre, les gens, que ce soit en France ou en Allemagne, ils ont l'impression, ils ont le sentiment très profond qu'ils sont en train d'entrer dans une période importante, dans une phase importante. Il se passe des événements terribles, des événements tragiques. Et en même temps, ça peut être excitant. On l'a vu tout à l'heure dans l'extrait qui est passé, dans l'extrait de lettres. Donc il y a des sentiments un peu ambivalents, mais qui vont dans les deux cas dans le sens d'entrer dans une grande époque. Alors du coup, ils gardent des objets, des affiches ou des objets, dans l'idée qu'il faudra pouvoir témoigner de ce qu'a été cette période si importante, cette période historique, pour plus tard. Donc il faut conserver. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il faut commencer à préparer l'écriture de l'histoire de cette époque. Puisque c'est une période historique, il faudra un jour en écrire l'histoire. Alors on rassemble des sources pour les historiens du futur. On organise même des grandes collections, des espèces de bibliothèques centrées sur la guerre, qui peuvent être des initiatives privées ou des initiatives publiques, pour préparer le travail des futurs historiens. Et ensuite, avec le temps, donc toujours pendant la guerre, on continue de conserver des objets, mais cette fois, c'est pour témoigner de choses peut-être plus tragiques ou plus prosaïques. Ce sont des images des destructions par l'ennemi, parce qu'on veut montrer que la barbarie, elle est évidemment du côté de l'ennemi. Ça peut être des objets qui renvoient plus à la réalité du champ de bataille, parce que ce sont des espèces de preuves de ce qui s'est passé et des choses qu'on pourra peut-être conservé, dont on pourra se servir pour expliquer plus tard que la guerre est horrible. Donc, c'est à la fois pour se souvenir et aussi pour transmettre une expérience.
Le dernier extrait des lettres de Maurice Sikluki nous explique ce qu'est une gueule cassée. Les gueules cassées sont-ils représentatifs de la violence connue pendant la Première Guerre mondiale ? Est-ce qu'ils ont aussi une place aussi importante en Allemagne ?
Les guerres, c'est un petit peu une lapalissade, hein, mais ça fait souvent des blessés et des morts. Et de ce point de vue-là, cette guerre-là, cette Première Guerre mondiale, elle a fait énormément de blessés et de morts. Et en plus, elle a fait des blessés et des morts qui sont d'un genre nouveau, à cause des armes qui ont été utilisées. Et par exemple, on voit que à cause de l'artillerie, de la nouvelle puissance de l'artillerie, les morts sont parfois pulvérisés. On retrouve rien. Hein. On retrouve éventuellement des petits morceaux, mais c'est tout. Et c'est un petit peu la même chose pour les blessés, c'est-à-dire que les blessés, ils sont parfois complètement défigurés. Et ça, c'était des choses qu'on connaissait pas auparavant. Et donc c'est le cas des gueules cassées. Ce sont ces mutilés du visage qui sont complètement défigurés. Alors c'est un phénomène qui est valable en France, mais qui est valable aussi en Allemagne. Et on le sait, d'abord par les sources militaires, par les sources médicales. C'est très bien renseigné, il y a eu beaucoup de photos, de réflexions pour essayer de réparer ces blessures. Mais on le voit aussi pour l'Allemagne à travers des œuvres artistiques de l'après-guerre. Et on retrouve la représentation de ces gueules cassées dans la peinture, par exemple. On la retrouve aussi dans des nouvelles, dans d'autres formes artistiques comme la gravure ou comme le collage, parce que le collage, ça permet de montrer un peu le démembrement de ces corps blessés. Et il y a des œuvres qui sont célèbres, que vous avez peut-être eu l'occasion de voir. Ce sont notamment les œuvres de Otto Dix. Il a fait une série qui s'appelle La Guerre et où on voit beaucoup de représentations de mutilés. Ou bien Georges Grosz. Donc ce sont des artistes allemands qui ont représenté justement ces gueules cassées et leur place, qui montre que c'était une place très importante dans la société d'après-guerre en Allemagne.
Est-ce que les familles percevaient la mort de leurs soldats comme un acte héroïque ou plutôt comme quelque chose de suicidaire ?
Alors là, c'est un petit peu comme tout à l'heure, c'est très difficile de généraliser. Il est sûr que du côté de l'armée, des gouvernements, des autorités publiques, toutes ces institutions, elles ont cherché à présenter la mort des soldats comme un acte héroïque, hein, pour la défense du pays, etc. Et il y a sans doute des gens qui ont perçu la mort de leurs proches comme un acte héroïque, ne serait-ce que parce que ça permettait de garder une image positive du mort, hein, de savoir que ça avait été un héros. Et ça permettait de trouver un sens, finalement. Il est mort, mais c'était pour le sauvetage du pays. Mais il y a aussi des gens qui ont sans doute pas du tout adhéré à cette présentation et qui étaient seulement désespérés ou révoltés, parce que c'était la mort d'un proche et qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et voilà, c'est d'autant plus difficile à dire que ce n'était pas forcément séparable, ces deux sentiments. Hein. Il pouvait y avoir une opposition, c'est-à-dire qu'une même personne, elle pouvait alterner entre la fierté et aussi le désespoir.
Comment s'effectuait le rapatriement des corps en Allemagne ? Y avait-il des cérémonies officielles ? Les rendait-on aux familles ?
Alors, pendant la guerre, de toute façon, il y a eu très peu de rapatriement de corps. Pendant la guerre, les soldats qui meurent au front, ils sont enterrés avec les moyens du bord au front, dans des cimetières. Ils peuvent après être déplacés, regroupés, mais ils sont enterrés au front. Et donc ça veut dire que les corps qui sont à l'arrière, ce sont les corps des soldats qui sont morts à l'arrière, et notamment les blessés qui étaient soignés dans les hôpitaux à l'arrière. Alors ceux-là, les familles peuvent les récupérer. Mais les autres, ceux qui sont sur le front, là, il faut attendre plusieurs mois ou même parfois plusieurs années après la fin de la guerre pour essayer de les récupérer. En France, ce qui se passe, c'est que le rapatriement, il est autorisé en juillet 1920. Donc vous voyez, ça prend du temps. Il est autorisé par l'État et il est pris en charge par l'État. Donc les corps sont en partie rendus aux familles, hein, donc à celles qui le demandent. En Allemagne, la situation est un petit peu différente, c'est-à-dire que le rapatriement, il n'est pas interdit. Donc théoriquement, il est possible. Mais par contre, dans la pratique, il est presque impossible. Pour l'Allemagne, les anciens fronts, là où on s'est battu, c'est à l'extérieur des frontières. C'est souvent très loin. Et puis, il y a le fait aussi que pour rapatrier un corps, il faut répondre à des critères d'hygiène, de sécurité, etc., qui sont difficiles à remplir. Et puis aussi, le fait que ça coûte très cher. Hein, et que tout ça, c'est à la charge des familles. Et qu'il y en a très, très peu qui peuvent se le permettre. Donc, du coup, il y a eu très, très peu de rapatriements.
En Allemagne, y a-t-il un culte de la figure héroïque du poilu comme en France ?
En Allemagne, pendant la guerre, on ne parle pas de poilu. Le poilu, c'est vraiment le soldat français. On parle du Feldgrau. Alors, Feldgrau, c'est un mot qui veut dire gris-vert, et en fait, c'est la couleur de l'uniforme des soldats. Donc, d'abord, ce n'est pas des poilus, c'est des Feldgrau. Et bien sûr, le Feldgrau, il est tout aussi héroïque pour les Allemands que le poilu est héroïque pour les Français. Et ce Feldgrau, ce soldat allemand, on le retrouve aussi sur certains monuments aux morts après la guerre, c'est-à-dire après la défaite de l'Allemagne. Et là, il est plus ou moins héroïque, justement à cause de la défaite. Sur les monuments qui sont des monuments plutôt nationalistes, voire revanchards, là, il est très, très héroïque. Hein. Il est très grand, il est en train de lancer une grenade, enfin, en tout cas, il est souvent en pleine action, ou alors il est en train de mourir, mais très héroïquement. Donc, sur ces monuments-là, vraiment, il est héroïque. En revanche, sur les monuments de deuil, donc des monuments qui sont beaucoup plus tristes, là, on retrouve le soldat allemand, mais plutôt dans une position recueillie. Par exemple, il a souvent son casque à la main ou sous le bras. Voilà. Donc, dans l'ensemble, il est plutôt moins présent que le poilu, héroïque qui a gagné la guerre, mais on le retrouve également.